Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Philippe Petit, bonjour, bienvenue et puis merci d'avoir accepté dans une journée très chargée de nous parler. Vous nous avez fait rêver.
Merci.
Vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait peur et il y a un documentaire qui est un documentaire qui est véritablement un chapitre de votre vie, même plusieurs chapitres et un moment exceptionnel. Vous savez, lorsque je lisais le livre de Umberto Eco, Le pendule de Foucault, à un moment donné, il y a un saxophoniste ou un trompettiste qui tient la note. Il tient la note au-delà de ce qui est normalement humain pour la respiration. Et il dit, j'ai connu l'absolu. Et cette image m'est revenue quand je vous voyais, non seulement dans la préparation, parce que c'était ciblé, mais la façon, c'était devenu une obsession, c'était devenu une poésie, c'était devenu une religion, c'était devenu une raison d'être finalement. C'est ça?
Bon, j'aime beaucoup, beaucoup votre analogie ou votre présentation de Umberto Eco, parce que ça peut vraiment être lié au monde que j'ai créé sur le câble. C'est vraiment ça, tenir le fil, disons, aller jusqu'au bout, et puis que ce soit une extension de l'esprit humain, de marcher sur un fil, comme de jouer une note, et c'est très très beau. Et ça décrit beaucoup mon univers, parce que je suis en fait quelqu'un qui n'est pas né dans le cirque, donc j'ai tout appris seul. Très tard, à l'âge de 17 ans, j'ai voulu devenir funambule. Un peu toute mon enfance m'a amené à cette décision qui n'en était pas une, c'était un appel en fait. Et donc pour moi, le monde du fil, c'est un monde de théâtre, de poésie, de communion avec un objet très vivant. Le câble d'acier a une vie et il faut l'apprivoiser, comme dirait Saint-Exupéry, sinon on ne deviendrait pas funambule. Donc c'est très joli la manière dont vous avez commencé à parler de ça.
Merci pour ça, mais c'est exactement l'image qui m'est venue à l'esprit au moment où je vous voyais sur le fil, parce que on vous voyait organiser les choses. Vous avez dû être un enfant hyperactif, non?
Oui, je savais ce que je voulais faire et je défiais l'autorité parentale ou autre.
Mais aussi la gravité et
toutes les lois, toutes les lois
de la nature et de la
famille. Absolument.
Mais ça en soi-même, à vrai dire, rien de grand en effet sans transgression.
Ah oui, il faudrait qu'on apprenne ça dans les écoles.
Mais alors, quelle est la limite justement lorsque l'on regarde l'absolu ou le rêve d'absolu?
Il n'y a pas de limite. La limite est dans le cœur de chacun. Il y a des gens qui ont un sens du non-limite comme moi, mais à la fois c'est pas vrai parce que quand je considère le monde que j'ai créé avec le câble, c'est vraiment du théâtre. Enfin, du théâtre, c'est un théâtre aérien et éphémère. Et donc, il y a des limites. Un homme de théâtre doit savoir qu'il est temps de sortir de scène. Sinon, les gens vont bâiller ou vont dire quelle pièce insipide, c'est bien trop long. Il vaut mieux que les spectateurs, je parle du spectacle, mais je peux aussi parler de la vie, se disent « Oh, mais c'est déjà fini !» C'est mieux de regarder un miracle et de se dire « Oh, j'en voudrais davantage » que de se dire « Quand est-ce que ce miracle va s'arrêter ?» Donc, il faut avoir le sens des limites, il faut avoir le sens de ses propres limites. Ce n'est pas une manière d'être invincible, mais c'est une manière de se protéger contre les forces adverses qui veulent vous empêcher de vivre. Pour un funambule, avoir le sens de ses propres limites, c'est essentiel. Et moi, j'ai cultivé ça, je continue d'ailleurs. Je travaille 3 heures par jour sur le câble à l'entraînement et je ne sais pas grand-chose. Donc, c'est bien de savoir qu'on ne sait pas grand-chose.
Seulement les plus humbles, mais aussi les plus talentueux disent ce genre de choses. Parce que c'est presque comme si, comme disait Nureyev, le corps oublie chaque jour.
Ah oui, et c'est très valable pour le jongleur. Moi, j'ai appris à jongler à l'âge de 15-16 ans, seul. Et si je m'arrête de jongler pendant une semaine, parfois je perds. C'est un terme de cirque, hein. On perd c'est-à-dire il faut rééduquer son corps à dialoguer avec les balles et les anneaux et les massues. Et à la fois, comme heureusement rien ne peut être arrêté quand on parle d'art, moi je vis dans un monde de contradictions et je vénère la contradiction. Et à la fois, je peux ne pas jongler pendant un mois si je suis en train de voyager pour des projets et avoir fait des progrès en jonglerie. Donc ça veut dire que je jongle dans ma tête.
le chemin continue à parcourir tout seul dans votre tête. Et le corps n'oublie pas entièrement, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, il y a aussi besoin de se ressourcer pour pouvoir réinsuffler une énergie nouvelle.
Oui, le corps n'oublie pas si on a mélangé le corps et l'esprit. Parce que si on ne s'occupe que du corps, je crois que le corps oublie parce qu'il n'a pas de raison de se souvenir. Mais si on mélange le corps et l'esprit, si le corps maintenant est transcendé par, disons, une passion, une idée fixe, quelque chose de beau, eh ben, le corps ne va jamais oublier ce qu'il est en train d'apprendre parce que c'est le meilleur des apprentissages quand la passion est le moteur.
Vous êtes en train de définir l'artiste.
Peut-être.
Dans le sens que c'est presque une mission. Une mission, mais dans le sens où on rentre dans son art, comme on rentre en religion, avec le sens de vouloir accéder à l'absolu, de vouloir s'approcher de la perfection. On surmonte les obstacles, on doit avoir ces moments où on s'arrête, on doit reconsidérer. Effectivement, c'est un chemin de... Je ne veux pas oser dire le chemin de croix, mais c'est un concours d'obstacles qui font en sorte que vous devez vous prouver à chaque fois. Et ensuite, on arrive à une certaine étape, mais on n'est jamais arrivé.
Vous venez de prononcer le mot religion, et quand on regarde l'étymologie latine, religare, c'est en fait prendre une petite corde et attacher deux choses ensemble. Alors moi, mon métier est un métier merveilleux parce que je mets une petite corde entre deux montagnes, mais quand je relis ces montagnes, en fait, je relis les hommes qui vivent dans ces montagnes, et quel beau métier.
Mais vous redonnez aussi le sens à la poésie que tout le monde peut toucher, peut admirer, peut voir. Une chose qui a été extraordinaire dans ce film, qui par ailleurs est plein d'humour et cocasse par moments, parce que c'est pas du tout un film qui est missionnaire, c'est que le mot beauté revenait à chaque fois. Et on avait presque l'impression que les gens n'avaient pas le vocabulaire pour décrire ce qu'ils ressentaient. Vous avez réalisé dans un sens le rêve d'Icare, sans vous écraser.
Oui, c'est un bon signe, je crois, lorsqu'on cherche les mots pour décrire quelque chose d'unique, de très beau, de miraculeux. C'est beaucoup mieux que d'avoir des mots déjà prêts. Il faut inventer des mots. C'est un petit peu la mission de l'écrivain, de ne pas uniquement utiliser les mots qui existent, mais de créer une langue nouvelle. Donc oui, sur le film, moi je me sens écrivain du ciel, je crée une langue nouvelle, presque à chaque page, j'allais dire. Mais j'ai oublié, en disant cela, j'ai oublié votre question. Qu'est-ce que c'était votre question ?
Dans le sens qu'on rentre en religion, on rentre dans la beauté, un sens, je ne vais pas appeler ça mysticisme, mais presque transcendance, parce que vous faites oublier aux hommes la gravité de la Terre.
Oui, c'est le funambule. Le funambule a été utilisé comme une métaphore de la vie, ou d'ailleurs même pas comme une métaphore, comme le symbole de lui-même, par tellement d'artistes, de philosophes, d'écrivains. Le funambule, c'est le fil de la vie. Il y a le départ, il y a la naissance, il y a l'arrivée, on peut associer ça à la fin d'une vie, et puis il y a le parcours d'une vie entière où il ne faut pas faire un faux pas. On ne peut pas se permettre de faire un faux pas, donc quelle belle métaphore. Et de nouveau, je suis amoureux du métier que je professe, parce que c'est un très beau métier. C'est faire, comme vous venez de l'évoquer, faire lever les yeux aux humains, c'est aussi important que de trouver de l'eau et du pain pour les nourrir et pour les assouvir. Donc ce besoin d'extraordinaire et d'absolu est en nous, mais on l'a peut-être oublié, et donc le funambule ou l'homme qui a luni sur la lune, qui va au fond des mers, qui explore le feu des volcans, toutes ces explorations, disons, aux limites de l'humain, sont des choses qui nous rappellent qu'il faut penser qu'on est sans limite, il faut penser qu'on peut tout faire, et ça c'est bien caché en nous, et on nous apprend à l'oublier.
On nous apprend surtout à être très prudent. Ce qui veut dire
que... Oh, quelle absurdité.
Mais dans un sens, vous défiez ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est la quête d'absolu. C'est la formule assez laconique de Oscar Wilde quand il dit « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles ».
Ah oui, c'est très beau, c'est très beau. Je parle très souvent de notre nature de petit insecte insignifiant qui rampe par terre. Je suis un de ces insectes, mais à la fois j'ai choisi de vivre ma vie sur des fils tissés de manière éphémère et où la vie apparemment est fragile, mais en fait pour moi, je ne peux marcher sur le fil qu'avec une incroyable solidité de granit, alors quel beau mélange.
Un mélange incroyable, mais sur ce fil qui est le destin, qui est la mort, qui est la vie, qui est le défi, qui est l'absolu ou la quête d'absolu, qu'est-ce que vous exprimez, Philippe Petit ?
Non, le fil pour moi ne contient aucune mort du tout. La mort, elle est autour du fil. C'est pour ça que je n'ai pas le droit d'aller voir ce qui se passe autour du fil. Je dois rester sur mon fil, qui est pour moi un ode à la vie. Et ce qui se passe, c'est que je suis moi-même intrigué et je suis incroyablement ému de voir le miracle de l'équilibre qui ne peut pas être mis en équation. Aucun ingénieur, au monde pourrait se dire ce qui se passe pour qu'un être humain tienne sur un fil. Oui, on peut faire des équations en parlant du centre de gravité, du balancier qui se déplace, mais tout ça, si ça n'incorpore pas les battements du cœur et la pensée humaine, eh bien ce sera une mauvaise équation. Le funambule n'est pas une réponse à la question de l'équilibre. Le funambule doit être un poète, un visionnaire, un explorateur, un musicien qui écrit une symphonie à jamais inachevée.
Et tellement éphémère.
Oui. Mais c'est beau l'éphémère, parce que ça nous force à observer la vie, à dévorer la vie, car chaque moment est déjà passé. Donc, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas traîner les pieds. Là, je reviens à notre condition de grouillant par terre, oui, d'insecte.
Et écrasé par notre gravité. Mais vous défiez, en quelque sorte, vous réalisez le rêve d'Icare, mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, parce que Icare, c'était simplement voler.
Mm-hmm.
Vous, c'est... Icare
n'avait pas bien travaillé son coup quand même. Il faut être un imbécile pour s'approcher du soleil et pas penser à la cire qu'ils font. Mais quelle belle histoire, quel beau mythe. En plus, moi, le mot défi, je l'utilise jamais parce que c'est un mot qu'on trouve beaucoup dans les choses à la mode comme le sport extrême, toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec un funambule qui dialogue avec les oiseaux et qui veut créer du théâtre en utilisant une scène très étroite faite d'un câble d'acier. Donc moi, dans ma vie d'artiste, le mot défi, c'est un petit peu comme le mot, disons, accomplissement, être le premier, le plus grand, le plus fort, le plus beau. Tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, si on a dans la vie cette obsession, on ne sera jamais le plus grand, le plus beau. Il y aura toujours quelqu'un au monde qui sera meilleur que vous. Donc, quelle quête absurde. Non, moi, ma quête, en fait, n'a pas de titre. C'est la quête d'un poète qui recrée le titre de sa quête tous les jours. Je n'ai pas de message à donner. Je suis un explorateur et je cherche à faire des choses belles qui, je l'ai vu, m'inspirent moi et inspire ceux qui regardent le ciel. Donc, c'est une quête à jamais renouvelée. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des doutes. Et ça fait partie de ma vie d'artiste. Mais je sais que j'ai la vie que j'ai choisie. Voilà ce que je peux dire.
On pense homme libre. Et pourtant, il y a les contraintes de ce que le fil demande.
Oui, et puis au XXe siècle, XXIe siècle, il y a les contraintes de ce que les hommes demandent. Tous les gens qui ont le non aux lèvres, plutôt que de dire oui à des belles fêtes, à des choses merveilleuses. Je passe beaucoup d'énergie à, non pas séduire, mais à convaincre. C'est dommage, on devrait m'inviter à mettre des fils partout dans le monde. Et c'est un petit peu le contraire. Il faut que je me bagarre pour créer des spectacles aériens funambulesques. Mais bon, ça c'est un petit peu les difficultés de ma profession.
Mais vous avez été entouré d'une tribu, vous avez été adoré, aimé jusqu'au plus fort. Vous aviez comme ce genre de tremplin qui vous permettait de vous élancer avec tous ces gens qui étaient autour de vous et qui vous adoraient.
Non, moi, je dis non parce que le mot adoration me gêne beaucoup. Je pense que l'adoration est quelque chose de très dangereux. Il ne faut pas s'y laisser tomber. L'amour, l'amitié, je veux dire, c'est des choses très belles qui justement fait partie de mon aventure au début. Il ne pouvait pas mettre ce fil tout seul. Il fallait que des amis m'aident. Je me suis tourné vers les gens qui m'accompagnaient dans la vie. Mon ami à l'époque, la jeune femme qui vivait avec moi, et puis mon meilleur ami, le jeune homme que j'avais rencontré quand on était gamin. C'était tout naturel pour moi de leur demander de m'aider. C'était tout naturel pour eux par amitié, par amour, de dire oui Philippe, on va t'aider. Mais l'adoration, non, j'ai connu l'adoration une fois que j'étais très connu, j'ai eu des adorateurs et je m'en défends parce que c'est très dangereux de succomber à l'adoration. Mais non, il faut saluer que dans cette aventure et le film le montre, il y avait une sorte de
une tribu,
je sais pas, parce que moi j'étais pas un
vous
chef de tribu.
Vous partagiez le même rêve.
Oui, je sais non. pas, c'était mon rêve et c'est ce qui a rendu les choses assez difficiles parfois, c'est que ça a toujours été mon rêve et puis les amis m'aidaient à réaliser mon rêve.
Mais c'était quand même
très contagieux parce que je veux dire quand on est passionné, la passion heureusement c'est contagieux, donc mes amis vraiment m'aidaient et voulaient que ça se fasse. Donc mes tribus, je ne sais pas, je veux dire en plus il y a une fluctuation incroyable, on le sent dans le film un petit peu trop peut-être, le côté humain, le côté changement de caractère de beaucoup de personnes est montré dans ce film beaucoup plus que moi je ne le désirerais. J'aurais mis davantage de cordes et de câbles et moins de larmes.
Oui, justement. Alors, vous vous êtes préparé pour ce qui aurait pu apparaître à tout le monde, une mission impossible. Mm-hmm. Vos amis ont cru en cette mission parce qu'ils vous ont entouré.
Certains de mes amis, d'autres ont dit oui, puis après non.
Voilà. D'autres finalement, c'était le bon grain de l'ivraie. C'est révélé à ce moment-là. Et ceux qui ont tenu bon, ils ont tenu bon. Et je suis très contente de voir qu'un Australien a tenu bon.
Oui. À la fois, non. À un moment, mes deux amis australiens ont dit non, on ne peut pas continuer à t'aider, mais bonne chance. Bon, au moins, c'était honnête. Il n'y avait pas de
lâche. Voilà. lâchement ou de l'acheter au dernier moment.
Non, non, non. Mais ça fait partie de l'aventure humaine de courir dans une direction qui est celle que vous avez choisie et puis vous avez besoin d'aide et de support, d'amitié. Et c'est pas simple comme chimie. C'est une chimie très, très complexe et fragile, en fait.
Et en même temps, il y avait aussi des impératifs. Il y avait des impératifs de sécurité qui étaient particulièrement exigeants. Donc, il fallait aussi que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en matière de détails pratiques.
Oui, oui, ce qui n'était pas le cas, en fait, parce que je n'étais pas à la tête d'une organisation très, très établie et rigide. Et j'étais une sorte de gamin qui courait dans la direction de son rêve. Et en fait, quand je regarde toute l'aventure, les 6 ans et demi de rêve et les 8 mois à New York, d'observer les tours, d'espionner les tours pour trouver comment amener du matériel la nuit, comment l'accrocher à des points d'ancrage qui seraient suffisamment solides. Quand je regarde ça, oui, je peux parler d'un plan, mais en fait, c'était pas le plan de l'attaque de la banque, comme j'aime parfois me souvenir. C'était vraiment un plan qui changeait du jour au lendemain. On se bagarrait avec mes amis pour savoir qu'est-ce qui avait raison sur comment faire les choses. Et le film montre un petit peu ça, d'ailleurs. Je voulais dire, c'était très naïf. C'était un groupe d'amis. Et d'ailleurs, on faisait que s'amuser ensemble, que se faire des blagues. Enfin, on le voit ça dans le film aussi. C'est très, très touchant. Et à un moment, les choses sont devenues très sérieuses, évidemment. C'était les tours, le câble, le funambule, la vie ou l'absence de vie.
Et le moment unique.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Et le moment unique.
Le premier pas, la première traversée.
Mais il y a eu aussi sérieux. Beaucoup d'humour quand il se cachait derrière les bâches, sous les bâches.
Ah oui, oui, oui.
C'est extraordinaire.
Oui, oui. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas du tout humoristique. La manière dont le metteur en scène l'a représenté, on dirait les deux bosses d'un dromadaire. Oui. C'est bien sûr pas comme ça que ça s'est passé. J'aurais jamais caché deux personnes sous une bâche en montrant qu'il y avait deux têtes.
Donc il y a une licence.
Mais c'est l'artiste metteur en scène qui a décidé de montrer de manière stylistique comment il voyait l'aventure. Mais de toute façon, oui, depuis le début jusqu'à la fin de cette aventure, il y avait de la grande joie, des rires et de l'humour constant que le film a montré. Ça, c'est bien.
Et on a cette possibilité, nous, en tant que spectateurs, de pouvoir rire parce que la tension est tellement palpable
qu'on
finit par être très crispé. Et vous suivre complètement en oubliant que vous l'avez déjà réalisé,
ah oui,
c'était en 74.
Oui, oui, absolument. Mais moi aussi, d'ailleurs, quand je suis dans un théâtre rempli de spectateurs et que je me cache là, incognito, et que je regarde, j'espère qu'il va réussir à faire son coup, le type à l'écran. Là, puis tout d'un coup, je réalise, oh, c'est moi, oh, je l'ai fait. Mais donc, le film m'entraîne aussi. C'est une qualité de ce film, c'est que tout le monde est au bord de son siège, tout le monde est ému, il y a des rires, des larmes, des applaudissements, du drame. Et il y avait tout ça dans mon aventure.
Toute la gamme des émotions y passe.
Ah oui.
Une chose que je voulais vous demander, hier, il y a eu une projection, il y a eu des questions et des réponses. Alors, comment ça s'est passé? Parce que le public est...
Ça s'est très, très bien passé. Ça se passe toujours très bien parce que j'ai une grande joie à partager mes souvenirs avec les membres du public qui sont curieux, qui ont des questions à poser. Ce dialogue est toujours extraordinaire. Bon, très souvent, on me pose les mêmes questions. Alors, j'essaye de pas envoyer des lignes toutes prêtes, pilote automatique, comme les Américains diraient. Mais j'essaye de revivre, en fait, l'aventure. Et puis, à la fois, je suis toujours étonné et touché de recevoir des questions qu'on ne m'a jamais posées dans ma vie. Alors, quelle merveille, quelle belle trouvaille. Oui, quel cadeau.
Par exemple,
on m'a demandé récemment, quelle odeur ressentez-vous à cette altitude? Est-ce qu'il y avait des odeurs? Quelle belle question, parce que c'est quand même plus intéressant que de dire à quoi pensiez-vous là-haut. C'est-à-dire, c'est pas une question générale, c'est une question précise. Donc ça, j'aime beaucoup les questions qui montrent que la personne qui pose cette question veut comprendre le monde dans lequel j'évolue. Donc c'est toujours une très belle question s'il y a ce sentiment derrière. Et d'ailleurs, j'ai un petit livre de bord et je marque des questions qui m'ont beaucoup touché, les très belles questions, belles pour moi en tout cas. Et je suis toujours surpris, donc je ne peux pas me dire, aujourd'hui je vais faire 10 interviews, ça va être toujours pareil. Non, parce que dans ces 10 interviews, il peut y avoir 2 questions qui me prouvent qu'il faut toujours être sur le qui-vive, qu'il y a des surprises dans toutes les minutes de la journée.
Le fil du rasoir.
Absolument.
Vous vous êtes bien préparé, vous avez commencé avec Notre-Dame. Et en même temps, c'est la hauteur, c'est la beauté des choses aussi, c'est de la poésie pure, parce que Notre-Dame, naturellement... Alors la police, vous êtes un problème pour la police, ça c'est certain. Comme la dernière épreuve l'a montré, la police ne savait vraiment pas comment vous prendre. Comment pouvez-vous menacer un funambule qui est entre les deux tours, ou qui est entre les deux tours de Notre-Dame ou... Il y a eu Notre-Dame, donc c'était très intéressant, parce que c'est presque un parcours initiatique. France, Paris, et puis encore une fois... monument historique. Il y a eu le pont de Sydney, qui ont rentré dans le Nouveau Monde. Et puis, il y a eu les tours de New York, les Twin Towers. Et alors là, vous faites partie de la grande histoire parce qu'elle n'existe plus.
Pour moi, ce n'était pas une préparation de mettre un fil sans permission à Notre-Dame. Je ne me préparais pas au World Trade Center. C'était ma vie de funambule. Fallait que je me produise en public. Et le fait que personne ne voulait m'engager professionnellement n'allait pas m'empêcher de m'imposer, d'imposer ma présence. Je ne parle pas du tout là maintenant d'une stratégie pour une carrière. Moi, je n'ai jamais eu de carrière. Je suis un sorte de funambule rêveur qui ne connaît rien à rien, enfin qui cherche à faire des belles choses. Mais j'ai pas de stratégie justement. Donc pour moi c'était des moments extraordinaires dans ma vie. Et puis il se trouve que, comme vous l'avez dit, après Notre-Dame il y a eu le pont de Sydney, après le pont de Sydney il y a eu les deux tours. Et c'est vrai, les deux tours ne sont plus là. Ma traversée entre les deux tours est presque maintenant devient une légende. En plus il n'y a pas de film aussi pour montrer que je marchais dans l'air. Il y a quelques photos et il y a les gens qui racontent. C'est maintenant du domaine de du conte. Alors
je dirais presque l'inconscient collectif maintenant.
Oui, ceux qui ont été là à ce moment-là.
Oui,
c'est extraordinaire. Je continue à rencontrer des gens qui étaient là ce jour-là et je les interviewe. Je dis, mais alors racontez-moi, pourquoi étiez-vous là et qu'est-ce que vous avez ressenti? Et c'est toujours extraordinaire. Donc,
il y a un mot qui réapparaît à chaque fois, beauté.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, les spectateurs étaient émus parce qu'ils ont vu que ce que je faisais était une chose profonde. Enfin, ils l'ont senti. Si j'étais quelqu'un d'autre, j'aurais traversé et puis j'aurais clamé, j'ai traversé. Et c'était pas du tout ce que j'ai fait. En fait, on me dit, moi, j'en étais pas conscient, mais que j'ai fait 8 traversées.
Vous avez fait 8 traversées
45 minutes sur le câble.
Et vous n'en étiez pas conscient.
J'en étais pas conscient du tout. C'était un spectacle improvisé et je n'avais pas de montre. Je savais pas du tout que, d'ailleurs, le temps, à un demi-kilomètre d'altitude, le temps ne s'étire pas de la même manière qu'au sol.
Justement, là, on parle du temps, on parle de la vie, on parle du moment unique, etc. Mais en même temps, il y avait ce sourire quand vous narguiez les policiers qui essayaient de vous appréhender.
Oui, c'était pas vraiment pour les narguer, ils l'ont peut-être pris comme ça, mais oui, je ne pouvais pas m'empêcher de jouer un petit peu au chat et à la souris avec eux, mais en fait, dès que j'ai vu les policiers sur les deux tours, prêts à me happer à chaque moment où j'arrivais très près de la tour, je savais, comme je connais bien mon film, je savais que dans 1 ou 2 centimètres, ils allaient accrocher mes cheveux, mes vêtements et me tirer sur le toit.
Au péril de leur vie, parce qu'ils n'étaient pas rassurés,
oui,
on
absolument.
Le voyait.
Donc à ce moment où ils étaient prêts à me happer, je savais qu'il était temps pour moi de faire demi-tour et pendant quelques moments comme ça, j'avais un sourire bien sûr joueur, mais en fait tout de suite j'ai aussi oublié la police et je suis rentré sur mon fil et j'ai continué à faire un spectacle très étrange parce que le public n'était pas convié à ce spectacle, il est venu par hasard, par surprise, et puis ensuite pour le public j'étais un petit point dans le ciel, sans doute on ne voyait pas mon visage, on voyait à peine mes mains et mes jambes, mes bras, mes jambes, donc quel étrange spectacle. Mais quand même, c'était un spectacle.
Un spectacle qu'ils n'ont jamais oublié. D'ailleurs, il peut-être était ce moment d'absolu que tout le monde a partagé.
Oui, je suis sûr. Oui.
Parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui marque. Comment vit-on, Philippe Petit, après un exploit pareil?
C'est pas la question que je me posais parce que j'ai été happé par la vie après cette traversée. Je suis devenu ce qu'on appelle en Amérique une célébrité et j'ai refusé cette vie facile de dire oui à gagner beaucoup d'argent en vendant mon art pour des publicités à la télévision ou pour endorser des produits. Donc c'était pas du tout ce qui m'intéressait de faire dans la vie. Donc j'ai dit non à tout. Donc je suis resté le jongleur des rues que je suis toujours aujourd'hui, passant mon chapeau pour vivre. Quelle belle action, quel beau métier. Donc en fait, ce qui a changé, c'est que maintenant le téléphone sonne et on me connaît et donc on veut m'engager comme funambule. Mais c'est exactement ce que je veux faire. Je veux être funambule, engagez-moi. Donc en 1974, après cette traversée, une nouvelle vie a commencé. Mais à la fois, rien n'a changé. J'ai continué et je continue toujours à me battre pour mes visions, à essayer de faire ce que moi je veux faire, à dire non aux choses qui ne m'intéressent pas. Je ne travaille pas suffisamment. Je suis le funambule le plus connu au monde et celui qui travaille le moins. Alors, travailler, c'est un mot qui semble un petit peu terrestre. Je veux dire me produire dans le ciel, évidemment, ou rêver à des spectacles aériens. C'est une profession qui n'en est pas une. D'ailleurs, parfois, je me dis, je ne suis pas du tout funambule. Je suis une sorte d'écrivain dans le ciel qui utilise le fil.
Le poète du ciel.
Oui, mais en fait, c'était un changement et à la fois, c'était une continuation. Donc, c'est toujours ces contradictions qui ne me dérangent pas du tout.
Alors, est-ce que vous avez une question à poser, Alicia?
Justement, on parlait de la police tout à l'heure. J'ai lu, en fait, que vous avez été arrêté plus de 500 fois. Mm-hmm. Et comment ça se passe quand vous êtes dans le poste, en fait? Qu'est-ce qui vous
ça dépend des pays. D'abord, j'ai été arrêté plus de 500 fois. Maintenant, j'ai arrêté de compter, mais le chiffre 500 est un joli chiffre. Je suis très fier de ces arrestations. Et c'est des arrestations de jongleurs des rues, de funambules illicites. C'est pas des arrestations de cambrioleurs et tueurs. Donc, de nouveau, je suis une sorte d'artiste criminel. Et comment ça se passe? Par exemple, ça dépend des pays, ça dépend des temps. Il y a des pays et des temps où la police qui trouve un attroupement de 500 personnes et il regarde et c'est un jongleur qui ne prononce même pas un mot parce que je suis silencieux dans la rue. Il y a des moments où la police est très violente, on embarque le funambule sans ménagement, on lui vole son matériel et son argent et on le renvoie du pays. Il y a eu des moments comme ça. Puis il y a des moments très polis, il y a des polices qui sont très polis mais très efficaces qui vous disent vous ne pouvez pas jongler ici sans permission, partez tout de suite sinon bon, d'autres qui vous embarquent. Mais parfois à Paris, je continue à jongler mais pas régulièrement. Je jonglais régulièrement à l'angle de la rue de Bussy et du boulevard Saint-Germain, le soir, la nuit, avec des torches. Je faisais un attroupement immense et la police venait, me mettait des menottes, m'emmenait en garde à vue pendant 6 heures, soi-disant pour vérifier mon identité, mais ils me connaissaient très bien depuis quelques années. Ils me demandaient même des autographes parfois et ils me relâchaient. Et je revenais la nuit même dans cet endroit pour continuer ma jonglerie et ils venaient me reprendre. Donc j'ai été parfois arrêté 2 fois le même soir et voilà pourquoi j'ai commencé à compter combien de fois. C'était risible. Mais je veux dire, un jour je vais écrire un livre sur mes jongleries de rue ou faire un documentaire qui raconte, et il y a des histoires qui sont pas belles du tout sur mes arrestations. Il y a des choses très violentes et très minables, et puis à la fois ça dépend, mais ça ne m'empêche pas, quoi qu'il se passe, ça ne m'empêche pas de retourner dans la rue en jongleur des rues, comme rien au monde ne pourrait empêcher de retourner sur le câble et de continuer à être funambule.
Il faut avoir du courage quand même pour se confronter comme ça et tenir tête.
Oui, mais justement, là, on ne rentre pas dans la notion courage ou autre. On est dans une autre dimension. Et ça, c'est une chose dont j'ai pris connaissance avec ce film parce que ça a été un émerveillement dans le sens que vous étiez en train de repousser les frontières jusqu'à l'impossible. Avec le sourire. Et j'ai pensé au Pierrot, j'ai pensé à l'Arlequin, j'ai pensé à tous ces personnages mythiques qui nous montrent qu'il y a des chemins possibles, même si nous restons, nous, cantonnés dans nos petites existences estriquées. Et ça s'appelle poésie,
liberté. Et puis l'inspiration, comme vous venez très justement de le saluer, c'est ce qui me touche beaucoup. C'est quand je fais une traversée dans le ciel, ça inspire les gens à rentrer chez eux et à changer leur vie, ou à regarder que rien n'est impossible, ou à vouloir faire des choses très belles. Et ça me touche beaucoup. Et de nouveau, je dis à cause de ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime tellement mon métier de marcheur dans le ciel.
Marcheur, promeneur du ciel, écrivain du ciel, poète du ciel. Philippe Petit, merci.
Ah, merci, c'est un grand plaisir de vous parler.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.